Ce soir, on vous diffuse un entretien fait avec les moyens du bord, avec Denis Colombier, qui a publié l'année dernière chez Payot « Où va l'argent des pauvres ?». Il revient dans ce livre sur la manière dont les pauvres ont de gérer la rareté de l'argent, mais aussi sur les réticences politiques de plus en plus fortes à redistribuer de l'argent aux pauvres et les réticences à éradiquer la pauvreté par la redistribution de l'argent. Et pour se mettre dans l'ambiance, on commence tout de suite par cette petite accroche.
On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Et donc, toute notre politique sociale, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mutualistes, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. Prévenir, responsabiliser. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, il ne faut pas refaire un discours de congrès, mais hein, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est par actif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Vous avez publié en 2020 « Où va l'argent des pauvres ?» chez Payot. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ?
Alors elle est venue assez progressivement. Elle a commencé en fait sur mon blog qui s'appelle Une heure te peine, que je tiens depuis 2007. J'avais fait il y a quelques années déjà un billet qui parlait de cette thématique-là. C'était autour d'un blog donc, où je parle de sociologie. Mm-hmm. Où j'essaie de vulgariser la sociologie. Elle réagissait à l'actualité. Il y a quelques années. Je crois que c'était à le Rhône comme région, il y avait eu ce projet de verser la prime de Noël aux personnes en difficulté, non pas sous forme monétaire, non pas sous forme d'achat comme d'habitude, mais sous forme de bons d'achat, de cadeaux. J'avais commenté ça en reprenant tes travaux de sociologie, à la fois tes travaux un peu classiques et d'autres beaucoup plus contemporains, de sociologie économique. C'est un peu la branche de la sociologie à laquelle je me suis spécialisé à partir de ma thèse. Et c'est un billet de blog qui a très très bien marché, qui a été beaucoup partagé. Je l'ai vu pendant les années qui ont suivi, il y avait beaucoup de chats qui les renvoyaient régulièrement sur les réseaux sociaux. Il était toujours parmi les plus lus sur le blog. Ouais. Suffisamment, en fait, pour que ça attire l'attention en fait, de l'éditeur, de Payot, de Renaud Paget chez Payot, qui m'a contacté, qui m'a proposé d'étendre le propos, essayer de le développer un peu. J'ai pris ça, en fait, comme une opportunité de faire au-delà de te parler de la question de la pauvreté, qui est évidemment très importante, j'ai pris ça comme l'occasion aussi faire une synthèse un peu d'un ensemble de travaux à sociologie économique autour de la question de la consommation et de la consommation des classes populaires. Et aussi de faire quelque chose qui me tient à cœur, un ouvrage qui défend l'utilité de la sociologie dans le débat public et qui permettent aussi de découvrir cette discipline au-delà de certains nombres de clichés récurrents sur son compte et qui permettent aussi de s'introduire à cette discipline et à la façon dont elle réfléchit.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça la particularité aussi du livre, c'est que en fait, vous êtes appuyé sur des enquêtes qui existaient déjà.
Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'est de combiner un ensemble de travaux qui existent, d'enquêtes qui ont été faites, pour essayer de faire une espèce de synthèse et surtout pour les présenter d'une façon qui soit la plus accessible possible. Les chercheurs en sociologie ont peut-être tendance à un peu plus s'adresser à un public extra-scientifique que d'autres disciplines, mais ils sont de moins en moins le temps de le faire. C'est de plus en plus compliqué en termes matériels de trouver le temps, de trouver d'avoir aussi toujours les compétences pour s'adresser à d'autres personnes qu'aux autres chercheurs. Et donc moi j'ai pris ça comme une occasion de prolonger en fait mon activité de blogueur, de vulgarisateur et d'enseignant et de donner accès à la littérature sociologique, d'essayer de montrer aussi comment on a un ensemble de recherches qui sont à des contextes différents, Donc la France et les États-Unis principalement, mais j'aurais pu mobiliser certains centres. Il n'y a pas que cela d'ailleurs. Et tu piètes, étant dans tes contextes différents, tes périodes différentes, présentent une certaine cumulativité, permettent de disposer à la fois de résultats qui sont relativement convergents et de concepts, de notions qui peuvent être utilisées pour essayer de mieux comprendre le monde au-delà du cas particulier, tes cas particuliers.
Et justement, si on rentre un peu dans le vif du sujet, alors qu'est-ce qu'un pauvre?
Alors, un pauvre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple à définir. Et d'ailleurs, j'utilise le terme de l'ouvrage à la limite plus comme une forme d'accroche, c'est-à-dire familièrement, on voit à peu près ce qu'est un pauvre, on sait que ça existe. Mais comme pour toute autre chose, si on essaye de le définir précisément, ben, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce que j'essaye de faire aussi, c'est partant un peu de ce terme pauvre, t'amener à ne pas simplement regarder les classes populaires et de là te regarder les relations entre classes, les positions de la structure sociale, tes questions d'exploitation et des choses comme ça. Mais la pauvreté, pour autant, a, je pense, une existence et elle peut se définir à trop de deux façons. Premièrement, on peut la voir au plan matériel, monétaire, économique. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai essayé d'insister beaucoup parce qu'en fait, étonnamment, ce n'est pas le plus évident. Lorsqu'on parle de la pauvreté, tel débat public, souvent, on va commencer à considérer que les problèmes des personnes que tu dessines comme pauvres, ils sont de toutes sortes, mais ils ne sont pas tes problèmes économiques. Ce sont tes problèmes parfois d'accès à l'emploi, mais de l'accès à l'emploi, on va passer à un problème d'illettrisme. De là, on va passer à un problème de culture. Et en fait, on va se retrouver à parler assez peu de la pauvreté à tant que phénomène économique et matériel. Donc moi, j'ai voulu revenir là-dessus et partir en fait moins peut-être d'une analyse de qui sont les pauvres, d'une analyse de qu'est-ce que c'est que la pauvreté, que l'expérience de la pauvreté, c'est-à-dire pour commencer ce moment où on doit gérer des budgets, on doit consommer avec des revenus qui sont extrêmement faibles et qui sont en plus extrêmement contraints, qui font l'objet d'un regard extérieur négatif, de tentatives de contrôle politique. Et j'essaie de montrer comment cette situation de pauvreté, de privation économique et de d'absence de pouvoir politique sur son propre argent, puisque celui-ci est contrôlé, surveillé par d'autres, comment cette situation, en fait, conduit à faire des choix de consommation particuliers, conduit à s'organiser d'une certaine façon, à avoir certains comportements qui, vu de l'extérieur, on peut se dire parfois c'est complètement absurde, il ne devrait pas consommer ça, moi si j'étais pauvre, je ne ferais pas ça. En fait, j'essaie de montrer que si on était pauvre, on consommerait comme ça, on ferait ces choix-là, parce qu'en fait, c'est la pauvreté qui impose ce type de comportement, c'est la pauvreté qui impose ce type de consommation, et c'est pas autre chose. Donc voilà, c'est déjà le premier aspect sur lequel le premier aspect de la pauvreté sur lequel j'ai essayé de beaucoup insister parce qu'il est en fait il est pas si évident que ça. L'autre aspect, c'est évidemment que la pauvreté, sociologiquement, on ne peut pas simplement la définir comme ça. Tu as le sens où on peut avoir des personnes qui sont, objectivement, tu as une situation de privation matérielle parfois assez importante, mais qui ne seront pas reconnues comme pauvres, qui ne seront pas vues comme pauvres, et ça va avoir des conséquences matérielles très fortes sur eux. Par exemple, certains intermittents du spectacle, certaines personnes qui travaillent dans ces domaines, des domaines qu'on appellerait des satellos précaires, pour simplifier beaucoup, avec un terme un peu problématique, mais je pense qu'il peut peut-être permettre de voir de quoi on parle, ben, ils ne seront pas forcément reconnus comme pauvres, ils ne seront pas forcément vus comme pauvres. Ce qui a à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que par exemple, tel cas des intermittents du spectacle, ça va légitimer l'existence de régimes spéciaux, celui des intermittents justement, et des formes de protection et de rémunération tout à fait particulières et peut-être un peu plus protecteurs. Il y aurait beaucoup de choses à tout à critiquer dans le régime des intermittents du spectacle, mais je laisserai les premiers concernés à faire la critique ou l'éloge selon le cas. Mais en tout cas, ça légitime l'existence de ce système. On accepte plus facilement qu'ils soient protégés parce qu'on ne les perçoit pas comme pauvres. Et puis, ça a des inconvénients, peut-être moins pour les intermittents de spectacle que pour une autre catégorie. Les étudiants, par exemple, même lorsqu'ils vivent dans des situations de précarité extrêmement forte, de privation extrêmement importante, l'actualité récente nous attend un exemple tout à fait clair, ben, ne sont pas perçus forcément comme pauvres, parce qu'après tout, ils sont étudiants, c'est normal à cet âge-là d'être dans une situation difficile, parce que aussi, on se dit, ah, ben, c'est juste pendant leurs études, après, ça ira mieux. Et donc, dans ce cas-là, n'étant pas reconnu, identifié comme pauvre, ça va délégitimer par avance toute tentative de leur venir en aide. Et donc, on va se dire, ben non, on va pas leur mettre le RSA à partir de 18 ans, parce que vous comprenez, ils sont étudiants, ce qu'ils veulent, c'est un travail, c'est pas manger le soir. Dans ce cas-là, ça ne joue pas tellement à leur avantage, mais ça pose à tout cas que la pauvreté au sens sociologique n'est pas simplement une situation de privation économique, même si elle l'est, et c'est tout à fait important une fois de plus, elle est aussi une position particulière dans les rapports sociaux, elle est une position de dépendance par rapport aux autres, de dépendance à la fois économique, c'est-à-dire que les revenus des plus pauvres, des pauvres, des peintres, des centres, et surtout un faible contrôle dessus, et puis des patasses politiques, puisqu'ils vont être stigmatisés, minorisés, et leur parole ne sera pas forcément attachée ou pas forcément reconnue, et notamment sur les questions qui les concernent le plus, par exemple les minima sociaux, l'opportunité de les remonter, de les monter ou pas, l'opportunité de les verser sous une certaine forme ou autre. Ben, ils ne seront pas consultés ou pas attachés parce que n'étant pas considérés comme légitimes pour cela. Et donc, c'est cette double situation. Les deux se retrouvent pas et se renforcent mutuellement. La privation matérielle, conduit à une moindre reconnaissance politique. La moindre reconnaissance politique fait que l'on a accès à des revenus moins protecteurs, à des formes de protection moins importantes. Donc, on est dans une situation économique d'autant plus difficile. C'est la conjonction des deux qui véritablement fait la pauvreté et l'expérience de la pauvreté.
Et justement, en parlant de dépendance, les pauvres sont extrêmement dépendants des jugements des autres, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Et c'est notamment une catégorie dont on se permet de juger les dépenses. Et c'est ce que vous disiez d'ailleurs en introduction, c'est-à-dire que les dépenses des pauvres ont tendance à choquer un certain nombre de gens, quelle que soit leur catégorie sociale. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme représentation derrière ce mouvement de réprobation, en fait, des dépenses des pauvres?
Alors, on va avoir beaucoup, effectivement, de réprobation, de critiques comme ça. Les pauvres utiliseraient mal leur argent. La preuve, ils s'achètent. Alors, ça a évolué tel temps, mais on a toujours trouvé quelque chose en fait, à reprocher aux pauvres d'acheter. Ça a été les baskets. Quand j'étais jeune, moi, au lycée, voilà, c'était les lycéens qui venaient de familles pauvres, mais qui avaient des baskets très chères. Ça peut rester. Aujourd'hui, ça serait plutôt le smartphone. Ça a été les cétraplans. C'était la voiture aussi, à un autre moment. Enfin, on trouvera toujours quelque chose qu'il ne devrait pas consommer, mais que pourtant il consomme. Et en fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ces différentes consommations, effectivement, elles existent. Les pauvres ont des smartphones, les pauvres achètent des vêtements de marque, ils s'achètent des baskets, ils s'achètent des écrans-plats. Et j'essaie de montrer que lorsqu'on fait l'effort de se placer dans la situation où ils sont, de faire cet exercice qui se passe d'abord sur tes sachets et d'abord sur tes chats, qui sont tes sociologues, qui sont allés les voir et qui sont allés leur demander comment vous consommez, comment vous gérez votre budget, etc. On se raconte qu'en fait, ces consommations, elles sont loin d'être irrationnelles. Elles sont au contraire leur logique. Et en fait, on se dit que si on était à la situation des pauvres, eh ben, on consommerait ça tout de la même façon. Oui, on achèterait un smartphone parce que c'est un bon moyen d'acheter, d'avoir accès à Internet et qu'aujourd'hui, un bon nombre de démarches que font les plus pauvres, parfois pour obtenir des revenus, se font par Internet. Donc, si on veut avoir son rendez-vous pour toucher son RSA, il faut prendre rendez-vous sur Internet. Et le meilleur moyen de capter le Wi-Fi, qu'on ne peut pas avoir un ordinateur chez soi, le plus économique, le plus rationnel, c'est le smartphone. Les vêtements de marque, bah oui, ça coûte cher, mais ça évite que les SAFA soient stigmatisés à l'école. On veut leur épargner l'expérience de la pauvreté. Voilà, on peut trouver à chaque fois une logique, mais on ne fait pas forcément l'effort de le faire. Et on attaque effectivement beaucoup, on critique beaucoup les pauvres sur la façon de consommer. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec la façon dont on veut légitimer en fait, l'existence de la pauvreté. C'est-à-dire que l'histoire qu'on se raconte en faisant ça, c'est celle du mauvais pauvre. C'est-à-dire ils sont pauvres parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce qu'ils n'ont pas les capacités pour, parce qu'ils sont une tare, parce qu'ils sont un problème. Et donc, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils sont pauvres. Et ça nous permet de ne pas avoir à trop nous soucier d'eux, puisque finalement, ils le méritent un peu. Et en même temps, ça veut dire que moi, qui ne suis pas pauvre, moi, ici, c'est pas moi personnellement, même si je ne suis pas pauvre par ailleurs, c'est voilà, c'est moi de généralité, moi qui ne suis pas pauvre, je peux me dire, ben, après tout, ils sont, si je ne suis pas pauvre, si je ne m'en sors pas trop mal, c'est que je l'ai mérité. Et quelque part, ça vient légitimer les inégalités économiques, cette représentation de la pauvreté. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile d'en sortir. Puis il y a aussi un effet de ce que j'appelle une forme d'ethnocentrisme de classe. On a l'idée que la façon dont on gère notre achat, dont on gère notre consommation, dont on gère plus généralement notre vie, elle est valable partout. Elle est valable pour tout le monde, à tous les niveaux de l'échelle sociale. Et en général, c'est ce qu'on promeut comme ça, c'est les modes de consommation propres aux classes moyennes et supérieures. Mais en fait, ça ne s'applique pas, ça ne peut pas s'appliquer sur des budgets de petite taille, sur des budgets réduits, on ne peut pas gérer de la même façon. Et un ignorant ou un refusant de voir que les choses peuvent être différentes, on s'attient finalement à un seul modèle de consommation, une seule façon de passer, d'utiliser l'achat, qui ça trouve tout à plus légitimé, et qui permet en fait de justifier l'existence de la pauvreté et de justifier par exemple qu'il y ait des gens qui, vivant en difficulté, sont disponibles pour certains emplois que je ne voudrais pas faire pareil. Donc tu as parlé d'une forme d'exploitation de la pauvreté, puisqu'en fait, on a parfois atterri à ce qu'elle existe.
Et vous êtes toujours sur FPP 106.3, c'est les oreilles loin du front. On écoute Denis Colombi nous parler de son livre « Où va l'argent des pauvres ?» paru l'année dernière chez Payot. Pour revenir à cette mauvaise gestion, entre guillemets, de l'argent des pauvres, ou cette gestion contrainte, en fait, de leur argent, vous avez donné l'exemple du smartphone, vous avez donné l'exemple des baskets, des vêtements de marque, etc. Vous donnez aussi l'exemple, alors, de justement la place des enfants et la place des dépenses de consommation à destination des enfants dans les familles pauvres. Et vous revenez sur ce fameux épisode qui a choqué aussi beaucoup les classes bourgeoises, on va dire, sur les émeutes du Nutella, au moment de promotion sur du Nutella. Et vous reliez ça aussi avec toutes les dépenses qui sont considérées comme étant des dépenses superficielles, qui seraient des dépenses pour le plaisir, en fait, en alcool, en cigarettes, etc. Donc, on a d'un côté des dépenses pour les enfants qui sont considérées comme superficielles, et puis des dépenses qui sont elles-mêmes, qui sont même considérées comme mauvaises pour les pauvres eux-mêmes, hein, qui seraient en alcool, en cigarettes. Et vous montrez que finalement, derrière ça, c'est ce que vous disiez d'ailleurs un peu, hein, mais il y a une rationalité. Vous disiez ça sur le smartphone, mais est-ce que vous pouvez revenir sur cette rationalité de dépenser de l'argent pour une consommation qui, a priori, a l'air justement superficielle sous un regard de personne qui a un budget plus abondant?
Oui, alors l'exemple de la cigarette est un exemple qui est assez intéressant pour ça. La cigarette, a priori, on pourrait se dire, c'est vraiment un produit de luxe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, ça n'a pas grand-chose d'utilitaire, a priori, et c'est mauvais pour la santé. On pourrait dire la même chose de l'alcool. Et pourtant, lorsqu'on regarde les statistiques, qui sont les personnes qui fument le plus, c'est les plus pauvres. Et l'alcool, et ben, il y a moins de différences, on pourrait s'y interpréter des différences en termes de consommation, mais c'est des différences de prix aussi des alcools consommés, mais il y a moins de différences de ce qu'on pourrait s'y attendre. Donc de là, on peut se dire, ben oui, voilà, c'est bien la preuve que les pauvres gèrent mal leur argent, ou qu'ils sont un problème, par exemple, qu'ils ne savent pas se retenir par rapport à la cigarette. Et en fait, on se raconte que la causalité est inverse. Lorsqu'on se penche sur pourquoi les pauvres fument, et ben c'est parce que la cigarette devient quelque chose de très important lorsqu'on est en situation de pauvreté. Et c'est notamment vrai dans tes sachets, mais tes sachets en plus qui se sont assez plutôt accumulés dessus. La première date de Paul Lazarsfeld, qui s'appelle « Les chômeurs de Marietal », c'était les années 1930, c'était la crise des années 30. Il se raconte, il étudie une petite ville, voilà, frappée par le chômage, et il se raconte que effectivement les ouvriers plochés dans le chômage ne s'arrêtaient pas de fumer, parce qu'en fait, fumer devenait l'un des derniers plaisirs qu'ils avaient et l'une des dernières façons d'avoir quelque chose qui organise le temps. Et ça a été retrouvé par les travaux de Jacques Ostas et Patrick Peretti-Vatel plus récemment. Qui montre en fait que ben, c'est toujours la même chose. On a effectivement des chômeurs et des personnes en situation de très grande précarité qui s'attachent à la cigarette pour plein de raisons qui sont complètement au principe. C'est un support de relation, c'est un support de sociabilité. On échange les cigarettes, on se les passe entre soi, on crée du lien autour de ça. Et pour des personnes qui n'ont plus la sociabilité du travail, ça devient très très important. De même que l'apéro, par exemple, participer à l'apéro, bah, c'est les seules personnes que vous allez voir dans la journée, ça devient très important. C'est aussi une façon de gérer le stress et le temps vite qui va avec le chômage. C'est aussi une façon de se dire, voilà, je suis à difficulté, mais je n'ai pas encore touché le fond puisque j'ai encore des cigarettes. Et toi, c'est le dernier petit plaisir qu'on va s'accorder. Et souvent, ces dépenses un peu somptuaires, symboliques, on pourrait se dire « Ah oui, mais moi, si j'étais pauvre, évidemment, je laisserais tomber ça. » Ça devient en fait très dur de les abandonner lorsqu'on se retrouve confronté à la pauvreté, parce que psychologiquement, ça coûte énorme d'abandonner des choses qui sont importantes pour nous et qui nous font sentir normal. Je parlais des vêtements de marque pour les enfants, parce que ça leur permet de ne pas trop ressentir le poids de la pauvreté, et c'est évidemment le cas pour les adultes aussi, qui on peut soit parfois de se dire, voilà, je ne suis pas que pauvre, j'ai aussi autre chose dans ma vie que d'être pauvre. Et même le smartphone, la fréquentation des réseaux sociaux pour un certain nombre de personnes en très grande difficulté, même des STF, la possibilité d'être sur Facebook et de pouvoir ne pas se présenter, parce que sur Facebook, on choisit la présentation qu'on a, de ne pas se présenter comme étant un STF, mais te dire, voilà, moi, je m'intéresse à d'autres choses, je veux discuter d'autres choses que la pauvreté, c'est déjà quelque chose qui peut être très important. Donc, toutes ces dépenses somptuaires, symboliques, etc., on s'imagine que c'est les choses qu'on va bâtonner en premier, et en fait, qu'on fait l'expérience de la pauvreté, il semble bien que non. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour tester voilà, ce qui se passe lorsqu'on donne de l'argent aux pauvres, du cash, et qu'on regarde si ça améliore ou non leur situation. Les résultats sont toujours assez convergents, ça l'améliore gravement. L'une des choses qui est parue, l'une des dernières expérimentations partout qui a été faite au Canada, si je ne me trompe pas, eh ben, c'est que ça avait réduit la consommation de tabac, d'alcool et de drogue chez les personnes concernées. Parce qu'avec des revenus plus importants, avec des revenus plus stables, d'un seul coup, ben, on peut se projeter à l'avenir, d'un seul coup, on peut faire des efforts plus facilement, et d'un seul coup, on peut se dire, voilà, ce n'est pas le dernier petit plaisir qui me reste, parce que je vais avoir autre chose. Toutes ces choses qui sont effectivement mauvaises pour la santé, il faut aussi comprendre que, par être simple, se dire « j'arrête de fumer aujourd'hui ou je fume moins aujourd'hui parce que ça me permettra d'être en meilleure santé quand je serai âgé », ça touche moins des personnes qui ont de bonnes raisons de se dire que leur espérance de vie va être plus courte parce qu'elles voient que leur situation économique est extrêmement difficile. Et que certaines savent que le travail les a déjà abîmées, qu'elles sont déjà perdues et ça n'espérasse de vie pour plein de raisons, et que l'avenir, de toute façon, ne s'annonce pas radieux non plus. Donc, pourquoi faire tes efforts pour un avenir qui ne viendra peut-être pas et qui, s'il vient, ne sera pas plus facile qu'aujourd'hui, de toute façon. La préférence pour le présent, qu'on a longtemps imputé, que certains travaux ont imputé à une espèce de psychologie des pauvres ou de culture particulière de la pauvreté, c'est en fait un produit très rationnel et très co-principe de l'expérience de la privation matérielle.
Oui, et puis vous dites aussi, même très rationnellement, qu'une personne pauvre qui se prive de ses petits plaisirs, en fait, ça ne lui rapporte pas assez pour s'en priver, c'est-à-dire que vous citez une enquête dont je ne me souviens plus, et l'enquêteur, le sociologue fait le calcul et dit finalement cette personne, si elle se désabonne du câble, je crois, oui, ça lui rapporte un mois de loyer sur l'année, à peine, quelque oui, chose comme ça. Oui, et ça que finalement pour elle, entre payer un mois de loyer sur l'année et d'être abonnée au câble, évidemment elle préfère être abonnée au câble, c'est pas suffisant pour se sortir de la précarité en fait, c'est pas suffisant pour épargner.
Oui, on a un peu une représentation comme ça de l'épargne comme le moyen pour se sortir de la pauvreté. J'ai une représentation, vu des classes moyennes et des classes supérieures, l'épargne est vertueuse et ça va être le moyen de s'en sortir. C'est pas vrai lorsqu'on a des budgets extrêmement faibles. Le chat vous citez, un chat qui est présenté dans un ouvrage qui me semble très important sur le sujet, j'encourage tout le monde vivement à lire, c'est l'ouvrage « Avis d'expulsion » de Matthew Desmond, qui porte, c'est une ethnographie de l'expulsion à Milwaukee aux États-Unis, et c'est vraiment un ouvrage qui est brillant. Et donc c'est une femme qui a une soixantaine d'années, qui vit dans un mobilhome, dans un trailer park, c'est un parc de mobilhome, c'est de la grande pauvreté, une des formes de la grande pauvreté aux États-Unis. Elle a 60 ans, elle est veuve, elle vit de l'assistance sociale, elle ne peut pas travailler, elle n'a pas de diplôme, elle est âgée, etc. Effectivement, si elle se mettait à épargner, au bout d'un an, elle se retrouverait avec comme ça un mois de loyer supplémentaire de côté. Qu'est-ce qu'elle peut faire à cet âge-là? Ça ne la sortira pas de la pauvreté, ça n'améliorera pas son quotidien. Donc, elle préfère, une fois par an, se claquer littéralement tout son revenu, les 80 dollars qu'elle touche à bon alimentaire pour le mois, elle va les utiliser pour se faire un festin te homard et te tarte au citron à l'honneur, c'est pour l'anniversaire du TC de son mari. Elle va acheter parfois des crèmes extrêmement coûteuses, elle va s'acheter une très grosse télé avec ses revenus de l'assistance. Mais c'est la seule chose qu'elle a de la vie, en fait, la télévision. Donc si elle se prive du câble, si elle se prive de tout ça, oui, elle aura un mois de loyer à la fin et elle ne sortira pas de la pauvreté. Et ce n'est pas le cas simplement pour elle. À France, pour les 10% les plus pauvres de la population, la TARES a calculé que... Non, pas la TARES, ça doit être le Tretoc, a calculé que pour les 10% les plus pauvres de la population, en moyenne, lorsqu'on retire les dépenses préattachées, c'est-à-dire le loyer... les abonnements, les assurances et les dépenses de retraite, l'alimentaire, les transports et toutes les choses auxquelles on ne peut pas se soustraire, il reste à peu près 80 euros en moyenne. Et 80 euros, ce n'est pas beaucoup, sur lesquels il faut mettre l'habillement, les loisirs, l'épargne et peut-être quelques autres choses que j'oublie. Et c'est 80% en moyenne, ça veut dire que 80 euros en moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont encore moins. Même si vous mettez ça de côté, pendant un an, de ça, au prix de sacrifices énormes, vous ne sortirez pas de la pauvreté à la fin. Ça ne marche pas comme ça. S'il suffisait de mettre de l'argent de côté pendant un an, deux ça, trois ça, pour sortir de la pauvreté, il n'y aurait pas de pauvreté, ça serait merveilleux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est peut-être le problème, il est dans une privation matérielle qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus large.
Vous dites aussi que, en fait, l'argent des pauvres, alors un des moyens de le gérer, c'est aussi que cet argent a plusieurs sources. Vous reprenez la théorie d'un argent marqué, du marquage de l'argent. Mmh. Et vous dites qu'en fait, certaines sources de revenus ne peuvent pas, par définition, participer soit à de l'épargne, soit à des dépenses, justement, qui seraient des dépenses qu'on estimerait être des dépenses raisonnables, comme payer son loyer, etc., mais ne peuvent être attribuées qu'à, justement, de l'argent qui serait claqué, comme vous avez dit tout à l'heure, dans des sorties, des coûts payés aux amis, etc. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu cette idée-là ?
Bien sûr. C'est une approche qui a été développée par la sociologue Viviana Sélisseur. Elle prend un exemple célèbre sur une enquête sur les prostituées en Suède. Et elle montre en fait que, dans cette enquête, les prostituées ont trop deux sources de revenus, les revenus d'assistance et les revenus de leur activité de prostitution. Et en fait, elles vont utiliser les revenus de l'assistance, par exemple, pour payer le loyer, pour payer les tôles pour leur safa et ce genre de choses. Et pour le reste, elles vont l'utiliser pour ce qui vient de leur activité. Elles vont l'utiliser pour très rapidement, elles vont le claquer littéralement elles vont acheter tes vêtements, elles vont acheter de la troche et des choses comme ça. C'est en fait parce que cet achat est marqué. Et on retrouve la situation, ta pièce d'autre cas. L'exemple le plus simple, plutôt, c'est qu'au sépia, tu as une partie des jeunes chats à situation de pauvreté, tes safas, tes adolescents, tes jeunes adultes à tes ménages pauvres, qui participent à tes commerces illégaux, commerce de la drogue, par exemple. Et ils tiennent l'achat comme ça. Mais cet achat, s'il est intéressant ou de problématique, peut-être, c'est qu'il ne peut pas être cumulé. Il ne peut pas être accumulé, il ne peut pas être épargné pour permettre une sortie de la pauvreté, même s'il y en a beaucoup. Il doit être destiné à autre chose. Pourquoi? Parce que comment on va expliquer, par exemple, à sa famille, où est-ce qu'on a gagné de l'achat comme ça? Parce qu'il va vouloir revenir avec des revenus importants, il va quand même vous poser des questions. Et on ne va pas forcément vouloir dire très simplement à sa mère et à son père « Salut maman, salut papa, j'ai gagné de l'argent pour le ménage et je l'ai gagné à revatat la troche. » Tout cet argent, tu vas consacrer à toute cette activité, tu ne vas pas pouvoir épargner, tu ne vas pas pouvoir investir, tu ne vas pas permettre à grand-chose. Donc, c'est aussi une conséquence, là, ces formes de consommation, de l'origine de l'argent. Ton dispose, c'est du fait que c'est de l'achat illégitime. Ça permet de gérer la situation de pauvreté parce que ça donne accès à des choses auxquelles on aurait avis par ailleurs, des formes de plaisir, de sortie, des choses comme ça, qu'on ne peut pas obtenir autrement, mais ça ne permet pas grand chose de plus. Et cette façon dont l'achat est marqué, préutilisée, elle est en fait extrêmement handicapante pour toute idée de sortie de la pauvreté ou simplement pour la qualité de vie des plus pauvres. Et c'est pour ça que lorsqu'on propose de marquer encore plus l'argent des pauvres à leur tonneau, des pots d'argent, à leur versa nature, en fait, leur revenu, en fait, on contraint tout à plus leur capacité ben, à faire des choix qui correspondent à ce que eux souhaitent effectivement faire et à ce dont ils sont effectivement besoin. Toute contrainte supplémentaire, en fait, peut être extrêmement négative dans ces situations-là.
Et par ailleurs, alors c'est un peu, bon, c'est lié, mais ça dérive un peu. Vous dites que cette gestion de l'argent, c'est un réel travail. Hein. D'ailleurs, vous réutilisez le concept de money work qui vient des enquêtes américaines, qui est en général le fait de femmes qui sont les gestionnaires de ce tout petit budget, de la rareté de l'argent. Et vous dites, en fait, elles négocient aussi cette rareté. Selon les différentes sources de l'argent, et que finalement, par exemple, la prime, peu importe, d'une aide, va être justement consacrée à des dépenses, alors pas forcément ostentatoires, mais des dépenses de sociabilité, alors que d'autres sources, comme des ressources plus stables, comme je sais pas, comme une aide particulière, va être consacrée à payer le loyer, etc., et que ça leur permet en fait de négocier les besoins des différents individus du ménage, et notamment les besoins aussi de statut social, les besoins symboliques, et notamment des hommes dans le ménage.
Oui, en fait, la gestion de l'argent dans les ménages pauvres est essentiellement une gestion dans les ménages hétérosexuels de personnes, et sont essentiellement le fait de femmes qui doivent gérer les revenus. En fait, on pourrait même aller plus loin et dire ça que une grande partie des ménages, enfin, une partie importante des ménages pauvres sont des ménages monoparentaux féminins, c'est-à-dire des mères seules, célibataires. Ce qui fait que la pauvreté est souvent un phénomène beaucoup plus géré qu'on ne le pense. La gestion, la charge mentale qui va avec cet achat, parce que c'est un travail de gestion, c'est aussi un travail de gestion mentale de cet achat, d'inquiétude, des chats qui n'arrivent pas à dormir à cause de ça, qui doivent surveiller en permanence, et bien, il revient beaucoup aux femmes, il pèse beaucoup sur les femmes. Et il est très prenant, en fait, lorsqu'on regarde la façon dont les enquêtes montrent que les plus pauvres gèrent leur achat, et bien, ils font des efforts, ils sont des modes de gestion qui sont parfois beaucoup plus contraignants, beaucoup plus rationnels, beaucoup plus efficaces même que ceux qu'on peut avoir ailleurs. Ils notent systématiquement, elles notent, pour certaines d'entre elles, systématiquement toutes les dépenses dans tes cahiers. Elles sont des systèmes d'enveloppe pour pré-budgéter les différents revenus. Enfin, c'est quelque chose que on arrête de faire quand on a un peu plus d'argent, parce qu'en fait, on n'a plus besoin de le faire. Effectivement, il faut gérer un plus que ça. Tu as le cas des couples, il faut gérer tes cires différents et gérer l'utilisation de l'argent. Tu as le cas de la prime, comme tu sais, parfois, en fait, tes revenus, le cochon peut avoir avis, effectivement, tu utilises de l'argent pour payer sa tournée au café, ce qui va lui rapporter un certain statut social. Ce n'est pas illogique à plus parce que ça va lui permettre, par être simple, ah, il est devenu, il va entretenir tes amitiés, tu vas lui fournir du soutien moral, matériel, de l'accès à l'emploi, parfois sur tes chantiers ou tes choses comme ça. C'est tout à fait important. Et en même temps, il faut aussi gérer les courses, la nourriture, les safins, etc. Et toi, tu as ces cas-là, effectivement, on peut avoir tes femmes qui trouvent comme solution de dire l'argent qui vient, tes revenus réguliers, tes salaires, voilà, on le prépudget, on l'utilise d'une certaine façon, on le retire à liquide parce que comme ça, il est plus stable, il est moins susceptible d'être pris par la patch, par tes sachets, par tes sapotes, par tes factures imprévues. Et on l'utilise comme ça. Et puis ensuite, ce qui est la prime, ça revient, tu travailles tes cochons et tout ça, eux l'utilisent plus librement pour leur propre intérêt. Et ces formes de conflits en fait autour de la gestion de l'argent au sein des ménages permettent aussi de comprendre un certain nombre de modes de consommation. Si parfois on fait les courses, si on fait les courses par exemple, dès qu'on a un peu de revenus et qu'on dépasse tout à tout, alors c'est une part parce qu'il faut stocker rapidement et qu'on est toujours à la merci d'une facture, de prélèvements bancaires ou d'autres choses qui peuvent faire disparaître cet argent. Et on préfère maintenir sa richesse, le peu de richesse qu'on a sous forme de stock de nourriture, par exemple, tu as tes congélateurs, tu as tes cachipis sur tes paletots ou autre. Ça peut être aussi qu'on veut éviter qu'ils ne soient utilisés trop rapidement par certains membres de la famille, notamment le cochon. Ça permet d'éclairer beaucoup, je pense, de la façon dont on se gère. Mais fils, il faut rentrer très concrètement. Thomas se gère un budget. Ce que c'est que te gérer un budget propre, on est pauvre. Y compris tu as tes relations inégalitaires de genre qui sont liées à un accès différent au marché du travail, qui sont liées à tes opportunités différentes en termes de capital social et ou de choses comme ça. Et finalement, tes formes d'inégalité entre hommes et femmes beaucoup plus transversales. Il faut tenir compte de ça aussi pour comprendre les modes de gestion de la pauvreté. Comme je disais, comprendre que la pauvreté, elle a des effets assez différents selon qu'on est un homme ou une femme.
Et ces différents exemples, en fait, nous montrent l'impossibilité vraiment de pratique, quoi, d'épargner et de se sortir de la pauvreté. Et vous êtes toujours sur FPP 106.3, c'est Les Oreilles Loin du Front. On écoute Denis Colombi nous parler de son livre « Où va l'argent des pauvres ?» paru l'année dernière chez Payot. Vous revenez sur la causalité de la pauvreté et vous dites en fait surtout l'explication à la pauvreté, en fait, bah, c'est la rareté de l'argent. Ce n'est pas une culture, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas une façon de penser, mais c'est tout simplement la rareté de l'argent qui engendre certaines pratiques, donc comme celles qu'on a un tout petit peu décrites ensemble là, mais certainement pas des valeurs particulières.
Voilà, ce sur quoi j'ai voulu mettre là de ça, c'est ça, effectivement. C'est que la pauvreté, c'est une situation qui s'impose aux individus, qui s'impose tout à plus aux individus que souvent on est pauvre, c'est-à-dire à la naissance, déjà, on est à ce ménage pauvre, ça nous clôture à consommer, à orienter, à nous orienter aussi à l'enseignement scolaire, à faire tes choix vis-à-vis de l'enseignement, par exemple, qui sont différents, qui sont compréhensibles, mais qui sont différents. Et ça va conduire à se maintenir dans la pauvreté, parce qu'en fait, on n'a pas d'autre solution. De telle sorte que la pauvreté, on n'a pas besoin, pour essayer de l'expliquer, de recourir à une explication psychologique, parce qu'il y aurait une incapacité à gérer l'avenir, par exemple, ou des problèmes de calcul. Capacité de gestion, encore moins à des formes de culture. On a cet argument qui a été très fort aux États-Unis, notamment de la culture de la pauvreté, qui revient un peu, qui arrive un peu à France. Ça n'est longtemps tenu un peu à distance, mais ça arrive. Aux États-Unis, c'est beaucoup sur l'idée que voilà, les Noirs ont une culture particulière, Alors lié avec des choses sur l'ostentation, le tout pour le pling-pling. Qui vient de dire, voilà, ils sont pauvres parce qu'ils ne consomment pas comme il faut, et comme il faut, ça serait comme les plats. Et on a ça qui arrive un peu à France, alors peut-être de façon un peu plus discrète, mais quand même en réalité, voilà, ils ont une culture particulière, ils ne sont pas exactement comme nous, avec beaucoup de timé. C'est que non, on n'a pas besoin de tout ça pour comprendre la pauvreté. Quelque chose auquel je tiens aussi au plan plus théorique, au plan plus sociologique, si la sociologie doit nous permettre de comprendre ce que font les individus, y compris ceux qui sont différents de nous, de telle sorte qu'on se dise, ah oui, si j'étais à leur situation, si j'étais à cette situation-là, étant donné ce que je sais, étant donné la description qu'on peut faire au plan sociologique, ben je ferais les mêmes choix. Parce que finalement, si les choix les sont faits, c'est peut-être qu'il y avait une raison, c'est peut-être qu'il y avait une logique, c'est peut-être qu'il y avait des choses qui les s'y amenaient. Et une bonne description sociologique, elle doit clôturer à pouvoir se dire ça. Si j'avais été à la place de cette personne-là, j'aurais fait pareil. Et peut-être qu'à ce qui s'assemble, on pourra se dire, ah oui, ben alors, du coup, quels sont les paramètres qui conduisent à ces choix, et peut-être comment on pourrait agir. Et là, le paramètre essentiel, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est le match par chat. La meilleure façon d'aider les gens à sortir de la pauvreté, c'est de leur donner de l'argent, c'est de leur donner accès à l'argent. C'est ce qu'a montré aussi Esther Duflo, tu as d'autres contextes, hein, tu as les pieds à tes blancs mains, mais les expérimentations qui existent montrent que ça marche aussi ailleurs. Lorsque les personnes ont accès à des revenus un peu plus importants, ben, elles peuvent avoir accès plus facilement au marché du travail, elles peuvent se lancer dans une formation, elles peuvent lancer un petit commerce, elles peuvent améliorer leur situation. Et un certain nombre de contraintes liées à la pauvreté disparaissent. Donc, ça peut paraître trivial, ça peut paraître altruisme, ça peut paraître trop simple, mais la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est toujours de donner de l'argent aux pauvres. Ça marche, c'est incroyablement efficace. Et je sais que ça peut paraître simple, un peu décevant, pour se dire, oui, bon, ben, voilà, la sociologie, ça me conduit à quelque chose, c'est complètement évident. Mais quand on passe à toute l'énergie que l'on met politiquement et entre à passer le contraire, à se dire que non, les pauvres, alors il faut surtout pas leur donner de l'argent, parce que sinon ça va faire des trappes à pauvreté, ils vont être encore plus pauvres, il faut surtout pas, il faut leur donner plein d'autres choses, l'accès à la culture, à l'éducation et entre, et pas à l'argent. On met énormément d'énergie à ne pas voir ça, et il faut que tu joues beaucoup d'énergie pour arriver à le rendre visible. Ça peut paraître simple, ça ne l'est absolument pas, parce que ça implique d'aller voir ce qu'il en est sur le terrain. Et finalement, on a assez peu de chats qui font ça, l'effort sur la pauvreté, d'aller sur le terrain et sur d'autres domaines aussi. Et les sociologues font partie de ceux qui font cet effort-là. Donc j'ai essayé de rendre accessible ce travail de la sociologie, ce travail qui est avant tout un travail de terrain, un travail empirique.
Et ce que vous dites, pour conclure justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que finalement, on peut éradiquer la pauvreté, qu'on l'a fait dans le passé. Historiquement, on a éradiqué par exemple la très grande pauvreté des vieux, des personnes âgées avec les systèmes de retraite. Donc le problème, c'est qu'on ne veut pas éradiquer la pauvreté. Pourquoi a-t-on besoin des pauvres?
Alors, c'est la conclusion vers laquelle j'arrive, c'est effectivement la pauvreté, on pourrait l'éradiquer, on a les revenus pour, on a l'argent pour. L'échelle d'un pays comme la France, on pourrait même le dire à une échelle plus supérieure, mais l'échelle de la France, au moins, c'est faisable. Avec un système de redistribution, on pourrait faire en sorte que personne ne soit pauvre, que personne ne vive à la rue, que personne n'ait faim et des choses comme ça. On sera peut-être pas tous richissimes, mais qu'au moins qu'il n'y ait pas de pauvres, c'est faisable. Effectivement, on l'a fait pour la pauvreté, la vieillesse impécunieuse, pour la vieillesse liée à la pauvreté liée à la vieillesse. On a mis en place des systèmes de retraite et ça a été extrêmement efficace, tout simplement. Alors, on n'a peut-être pas réglé tous les problèmes. Il y a toujours des personnes âgées qui vivent à la pauvreté. Il y en a considérablement moins qu'au 19e siècle. Et on peut régler ce problème. Pourquoi on ne le fait pas? Ça me pousse à dire que la pauvreté est un problème qui va tout politique. Il y a un certain intérêt qu'on a à ce qu'il y ait des pauvres. Ils sont une fonction sociale. Même si le terme peut paraître s'est dépassé à un certain de mes collègues sociologues, parler de fonction sociale de la pauvreté, peut-être ça éclaire un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'il y a des chats qui sont disposés à m'amener mon repas le soir à vélo ou autre, parfois à bravant, enfin, pas mal confinement, pas mal premier confinement au moins, malgré les risques sanitaires qui s'est recoupé, parce qu'il y a la menace de la pauvreté. Parce que non seulement ils viennent souvent de ménages pauvres, et parce qu'à plus, ils ne veulent surtout pas être à la pauvreté, ils sont prêts à prendre des risques pour éviter ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ramassent mes poubelles? pourquoi je ne sais pas m'associer du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui acceptent et s'approchent que je ne voudrais pas faire, qui sont tueurs physiquement, etc. Parce qu'il y a des pauvres. Quelque part, on profite, nous profitons tous de l'existence de la pauvreté. Ça nous motive aussi tout simplement à travailler, hein, nous consacrer à l'activité économique par peur de tomber dans cette situation qui est à la fois difficile économiquement et stigmatisée socialement de la pauvreté. Donc quelque part, s'il y a de la pauvreté, c'est parce qu'on lui trouve politiquement une utilité. Et je pense que la première étape pour arriver à régler le problème de la pauvreté, c'est une première étape, mais elle est très importante, on ne pourra pas l'éviter, c'est de comprendre ça, de comprendre qu'il y a une forme d'exploitation de la pauvreté et qu'il faut se dire qu'on ne veut plus de cette exploitation-là. Ça impliquerait aussi qu'il y ait politiquement un truc qui n'existe pas pour l'État à France, mais des personnes, des représentants politiques qui essayent de prendre à charge les revendications des pauvres, leur situation particulière, et de les représenter politiquement. Pour l'État, il n'y en a pas. Il y a un peu quelques députés, François Ruffin et quelques centres, qui de temps en temps, sur des cas précis, vont intervenir, mais qui vraiment portent ça de façon assez large. Il n'y en a pas vraiment. Et il y a sans doute beaucoup de choses politiques à construire pour rendre ça visible et pour permettre à cette problématique-là de se poser et d'être posée à chacun.
Et c'est vrai que je vais finir là-dessus, en fait, et vous finissez là-dessus aussi votre livre. Penser une société sans pauvres, c'est repenser en fait complètement la société, repenser complètement les rapports au travail, repenser complètement les rapports aux loisirs. Et en fait, c'est sortir du capitalisme, sortir de la logique de marché.
C'est au moins sortir du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si ça nous sortira totalement du capitalisme. Je suis prêt à écrire un autre livre qui parlera du capitalisme, donc peut-être que j'apporterai cette question plus frontalement. Mais en tout cas, ça obligera à repasser fondamentalement la façon dont fonctionnent nos économies, dont fonctionne effectivement le capitalisme, parce que d'un seul coup, on ne pourrait plus s'appuyer sur la pauvreté pour motiver un certain nombre de travailleurs à faire un certain nombre de tâches. Il faudrait repasser des modes de production, des modes de distribution, des modes d'accès à un certain nombre de ressources. C'est pas faisable, c'est tout à fait faisable. Simplement, il faut prendre cette question à bras le corps, il faut accepter de la traiter. C'est pour l'instant ce travail-là, qui est un travail politique, qui ne cite pas ce que peut faire simplement le sociologue. Je peux attirer l'attention sur le fait que c'est une question politique, mais régler cette question politique, c'est pas à moi, en tant que sociologue, de le faire. C'est à tes acteurs politiques, c'est toi, à la communauté politique, à l'organisation telle qu'elle existe, a priori, pour l'instant, c'est un cadre de l'État.